France Culture.
France Culture, question du soir. Quentin l'a fait.
Il y a une semaine, plusieurs médias dévoilaient que des étudiants avaient été exclus d'un groupe WhatsApp à cause de leur nom à consonance juive. Trois semaines plus tôt, un autre groupe WhatsApp d'étudiants de la même université, l'université de la Sorbonne à Paris, lançait le sondage suivant. Les juifs, pour ou contre, dans le contexte d'un antisémitisme latent, croissant, comment penser donc l'intégration, l'émancipation des juifs en France et en Europe? Comment penser le lien de la diaspora avec Israël et l'avènement d'une Europe post-Shoah? C'est le concept développé par notre invité ce soir, Bruno Carsanti. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes philosophe, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales et vous faites paraître cet ouvrage intitulé « Les paradoxes de l'intégration, l'Europe et les Juifs » aux éditions Kalman-Lévy dans la collection Diaspora. Merci d'être présent ce soir dans Question du soir. Et pour commencer, Bruno Carsanti, comment se manifeste, au-delà des chiffres, au-delà des statistiques, dans les vies de tous les jours, dans le quotidien des Juifs de France, l'antisémitisme dont tout indique qu'il va croissant?
Il se manifeste, je crois, depuis assez longtemps, comme un sentiment d'insécurité, de menace, pesant sur les Juifs de France et d'Europe d'une manière générale, mais je crois que depuis le 7 octobre, le sentiment d'insécurité s'est doublé d'un sentiment de solitude, d'incompréhension, le sentiment d'être incompris, hein, et le sentiment que la question du sionisme, la question d'Israël était prise comme sur le mode de l'accusation et qu'elle n'était pas perçue dans toutes ses dimensions pour les Juifs de la diaspora.
Qu'est-ce que vous voulez dire par le terme d'accusation? Au fond, on lit trop souvent dans leur destin les Juifs d'Europe, les Juifs de France avec la destinée d'Israël?
On les lie leur existence à l'existence d'Israël et au comportement du gouvernement israélien, mm-hmm. hein, et donc à la politique israélienne actuelle. Et du même coup, on efface la réalité du lien, parce que le lien existe, évidemment. Le lien existe, mais on le comprend soit comme une double allégeance, hein, soit comme une manière de cautionner Israël quoi qu'il fasse. Hein. Or, c'est pas comme ça que le lien s'est construit. Il s'est effectivement construit après-guerre. Hein. L'existence juive en général marche sur deux pieds, repose sur un diptyque. Hein, diaspora et Israël. Y a une tension entre les deux, parce que d'un côté, il y a l'idée que un sionisme plus militant, fort, revendicatif, estime que un véritable juif doit devenir israélien. Hein. Inversement, un diasporisme plus fort estime que ce qu'est Israël ne dit rien de l'identité juive, mais entre ces deux extrémités, en réalité, vous avez la majorité de la perception des juifs qui se situe en rejetant ces deux extrémités, en se disant que, au fond, il y a des modes de composition qui sont propres aux juifs de la diaspora quand ils sont nationalisés et bien nationalisés, comme c'est le cas en France, qui n'enlèvent rien à leur adhésion au modèle français et à l'État français, mais qui justifient néanmoins un rapport spécifique à cet État comme défendant leur existence sur la scène internationale.
Je vais rappeler les chiffres de cette croissance des actes antisémites en France parce qu'ils sont effarants. On a recensé 1670 faits antisémites en milieu scolaire et universitaire durant l'année 2023-2024 contre 400 entre 2022 et 2023. C'est une augmentation de plus 317%. Et sur ce lien justement entre Israël et les Juifs de France et d'Europe, je voudrais vous faire entendre la voix d'Emmanuel Macron. Il s'exprimait le 18 septembre dernier dans le cadre d'une interview à la chaîne israélienne Channel 12. C'était sur Channel 12, donc News Israel.
When Israel started to have a sort of permanent war in Gaza,
quand Israël a commencé à mener une sorte de guerre permanente à Gaza, nous avons exprimé notre désaccord, avec respect, mais avec clarté. Mener ce type d'opération à Gaza est totalement contre-productif, parce que c'est un échec. Vous faites tant de victimes civiles que vous détruisez complètement l'image et la crédibilité d'Israël, non seulement dans la région, mais dans les opinions publiques partout dans le monde. L'approche de votre gouvernement, et spécialement de certains ministres, est de détruire la possibilité de la solution à deux États.
Y a-t-il, comme le laisse entendre Emmanuel Macron, une responsabilité forte, profonde du gouvernement israélien aujourd'hui qui détruit, pour reprendre ces termes, l'image et la crédibilité d'Israël ?
Je crois que le gouvernement actuel est dans l'erreur depuis longtemps.
Le gouvernement israélien.
Le gouvernement israélien est dans l'erreur, persiste avec acharnement dans une guerre qui est devenue criminelle, hein, et qu'effectivement, le lien entre la diaspora et Israël connaît une crise, hein, de ce point de vue. Bon, maintenant, les paroles qu'on a entendues doivent être, je crois, remises dans une séquence plus longue. Hein. Ce qui ouvre la séquence dans laquelle on est, c'est le 7 octobre. Hein. Et c'est l'effet du 7 octobre sur la conscience israélienne, sur la perception que les Juifs du monde entier ont de leurs conditions, et sur la conscience occidentale. Hein. Qu'est-ce qui s'est produit exactement le 7 octobre ? Ne pas dire qu'il y a antisémitisme meurtrier dans le 7 octobre est une faute. Ne pas dire que le 7 octobre met en jeu, hein, la sécurité d'Israël et que la responsabilité incombe d'abord au gouvernement israélien en place, hein, est une autre faute. Moi, j'ai toujours pensé que, après ce qui s'est produit, Netanyahou aurait dû chuter.
C'est d'abord et avant tout une erreur manifeste du gouvernement
c'est
israélien.
C'est une erreur
le 7
sur
octobre.
La politique menée par Netanyahou à l'égard des territoires depuis longtemps.
Gaza et la Cisjordanie.
Et qui s'est, des territoires occupés, effectivement, et qui s'est accentué depuis la dernière coalition où des ministres d'extrême droite figurent, donc, et où une radicalisation, une droitisation forte de la politique israélienne s'est manifestée. Mais ce que je veux dire, c'est que la confusion entre la défense de l'existence et de la légitimité de l'État d'Israël et la politique actuelle du gouvernement a été immédiatement faite, hein, dans l'opinion occidentale, dans une partie de l'opinion occidentale, et que ça aussi, hein, c'est une faute.
Est-ce que c'est une faute également, celle commise par Benjamin Netanyahou, vous nous le direz, justement d'instrumentaliser également peut-être cette notion d'antisémitisme lorsqu'il reproche au gouvernement australien, au président de la République française, de souffler sur les braises de l'antisémitisme lorsque ces deux États reconnaissent l'État de Palestine? Est-ce qu'il y a là aussi, selon vous, une faute?
Oui. Oui, incontestablement, on n'utilise pas l'accusation d'antisémitisme à tort et à travers, et on ne l'impute pas à des États, des personnes qui ont manifesté très clairement leur adhésion à l'existence de l'État d'Israël, leur opinion selon laquelle la légitimité de l'État d'Israël n'était pas en question. Mais, il y a un mais. La façon dont l'antisionisme a été croissant, hein, dans les opinions occidentales depuis le 7 octobre, la façon dont on a effacé, hein, justification de l'existence de l'État d'Israël dans une histoire plus longue, hein, qui est celle post-Seconde Guerre mondiale, hein, est aussi un aspect du problème. Si vous voulez, quand Netanyahou dit « vous êtes antisémite », il a évidemment tort. Quand on dit « il est nécessaire de mieux comprendre l'antisémitisme spécifique qui a grandi depuis deux décennies », là, par contre, hein, on tient un propos nécessaire pour le bon fonctionnement de nos démocraties et pour le sort des Juifs dans le monde.
Certains vous répondraient peut-être, Bruno Carsonti, que cet antisionisme croissant depuis le 7 octobre est encore plus croissant depuis la guerre à Gaza menée par Israël, les crimes insoutenables qui y sont commis, que c'est aussi, au fond, une responsabilité, là encore, du gouvernement israélien.
C'est vrai que la conduite de la guerre est criminelle depuis un certain temps, c'est-à-dire qu'une guerre justifiée est devenue une guerre criminelle, une guerre de défense justifiée dans les premiers mois après le 7 octobre est devenue une guerre criminelle. Effectivement, les crimes commis font naître une indignation qui se branche, c'est ça le problème, hein, qui se branche sur un discours qui précède le 7 octobre et qui déjà avait attaqué, érodé la justification d'Israël. Et donc, si vous voulez, ce que je dirais, c'est que l'antisémitisme grandit parce que on n'a pas analysé avant le 7 octobre et depuis le 7 octobre, ce qu'il est vraiment. Voilà.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire le déni de ce que les Juifs soient fondés à exister politiquement. Voilà. C'est ça qui a grandi dans la conscience occidentale, à mon avis.
Exister politiquement, plus que même, j'allais dire, être parmi nous, vivre parmi nous, c'est la dimension politique de l'identité juive sur laquelle est véritablement fondée, selon vous, Bruno Carsonti, l'antisémitisme latent, profond ?
Oui, parce que je pense que c'est ce qu'il y a eu d'inédit dans ce que j'appelle l'Europe post-Shoah. Ce qu'il y a eu d'inédit dans l'Europe post-Shoah, c'est le fait que on comprenne que l'antisémitisme avait été constitutif, hein, du développement des nations européennes, que cet antisémitisme, paradoxalement, était lié à leur intégration, hein, qu'on ne s'en débarrasserait pas simplement en posant constitutionnellement la lutte contre l'antisémitisme comme un impératif, mais qu'on devait admettre que les Juifs pouvaient se constituer politiquement, se défendre eux-mêmes, parler le langage du droit, et ça aussi bien du droit des Juifs à exister, aussi bien en diaspora qu'en Israël. Et donc, c'est ça qui soutenait le diptyque, si vous voulez, ce que j'appelle le diptyque, c'est-à-dire la diaspora et Israël, la diaspora comme portant un langage politique de défense des droits, hein, et Israël comme garantissant un abri pour les Juifs dans des conditions où on pensait que, je crois que c'est encore vrai, hein, ils sont toujours potentiellement menacés, hein, par les pouvoirs, mais aussi par la société. Voilà.
Je voudrais vous faire entendre, Bruno Carsonti, à propos de cette notion d'antisionisme que vous avez soulevée dans cet échange à plusieurs reprises, la voix de Sophie Bessis. Elle était l'invitée de Julie Gacon dans Les Matins de France Culture. C'était le 7 août dernier.
Pour Herzl, le projet sioniste est un projet colonial. Il ne le cache pas, il le dit très très clairement. C'est, si vous voulez, c'est le paradoxe du sionisme. Le sionisme est né en Europe. C'est un nationalisme européen à l'époque de l'émergence des nationalismes dans la seconde moitié du 19e siècle. Et pour un certain nombre de Juifs, c'est un projet émancipateur. Pour éviter les persécutions, etc. Mais ce projet émancipateur ne pouvait se réaliser que dans une logique coloniale, puisqu'il s'agissait d'aller créer un pays là où il y en avait déjà un. La Palestine n'était pas une terre sans peuple. Il y avait une longue histoire. Et aujourd'hui, si vous voulez, eh bien, on essaye d'en faire une terre sans peuple en évacuant pour la deuxième fois de l'histoire récente les Palestiniens de leur terre.
Votre réaction à ces propos, Bruno Carsanti ?
Je les trouve caricaturaux, je les trouve inexacts. Je pense que projeter, rétro-projeter l'idée qu'on a aujourd'hui de la catégorie de colonialisme sur la création de l'État d'Israël est une erreur. Je pense que ce qu'on entendait par les colons juifs, c'était des réfugiés et des rescapés pour leur grande majorité. Ce qu'on entend par installation colonialisme de peuplement, c'est la catégorie qui est aujourd'hui utilisée. Dans ce cas-là, se heurte à des objections majeures. Pas d'extraction des ressources à des fins d'enrichissement d'une métropole d'arrière-plan qui, dans ce cas, n'existe pas. Pas d'exploitation des populations locales. Agrandissement, effectivement, des possessions juives par achat de terres. Alors, dans des conditions, effectivement, où de l'injustice s'est produite. Expropriation. Les expropriations commencent après la guerre d'indépendance. Alors, la guerre d'indépendance contient son lot d'injustices à l'égard des Palestiniens. Mais là, on sort de l'idée de colonialisme. On est dans l'affrontement de deux nationalistes post-coloniaux. Voilà. On est dans l'affrontement de deux revendications nationales sur le sillage, dans le sillage de la décolonisation. Les deux s'opposent au pouvoir anglais, au mandat britannique. On a une population effectivement de migrants depuis les pogroms de la fin du 19e qui augmentent, donc plusieurs vagues d'alias qui viennent se greffer sur une présence juive qui n'a jamais disparu complètement, qui était résiduelle effectivement, mais qui quand même constituait, par exemple, à Jérusalem au 19e siècle, la majorité au milieu du 19e siècle, la majorité de la population de Jérusalem.
Mais des populations arabes qui, en 1948, sont quand même largement expulsées de leurs terres et vers des terres qui ne leur appartiennent même plus et qui se retrouvent même du jour au lendemain, ils appellent ça la Nakba, la catastrophe, loin de l'endroit où ils ont vécu et de loin de l'endroit où ils sont nés tout de même.
C'est vrai, c'est c'est l'effet direct de la guerre d'indépendance qui a été enclenchée par la Ligue arabe, par les pays arabes. Et effectivement, il y a eu des expulsions, il y a eu aussi de l'exode. Les historiens quantifient le nombre d'exodes et d'expulsion.
Non, mais de l'exode forcé tout de même, je me permets de le dire.
De l'exode forcé, de l'exode sous le coup de la défaite. Il y a eu des exactions, il y a eu de l'injustice. C'est incontestable. Maintenant, la question, c'est de savoir comment, depuis lors, on a réglé le conflit entre deux prétentions nationales concurrentes dans la région. Et moi, ce que je voudrais, c'est qu'on analyse ce conflit en termes d'affrontement de deux nations qui cherchent à se constituer et à s'étatiser. L'une s'est étatisée à partir de 1948 et a réalisé le sionisme, si vous voulez. L'autre ne l'a pas fait, n'a pas pu le faire, a été empêché de le faire, mais aussi n'a pas su se constituer comme projetant son État de façon claire et justifiable. Hein. Et donc, on a un conflit qui dure depuis près de 80 ans et qui a été recodé aujourd'hui comme un conflit colonial, alors que ça n'est pas un conflit colonial.
Je ne vous suis pas nécessairement sur le terme de justifiable, mais une dernière question, et après on reviendra tout de même à l'Europe, Bruno Carsanti. Le fait d'analyser ce conflit, la situation actuelle telle qu'elle existe, comme deux volontés nationales, est-ce que ce n'est pas aussi effacer un fait évident? Ces deux volontés n'ont pas la même force, n'ont pas la même puissance, n'ont pas les mêmes accès aussi au monde qui permettrait une reconnaissance égale et justifiée. Est-ce que donc c'est le bon prisme pour analyser ce conflit entre Israël et la Palestine, et plus encore, ce qui se passe aujourd'hui à Gaza et les crimes qui y sont commis?
Vous avez raison, il y a une asymétrie. Il y a une asymétrie.
Elle est fondamentale.
Elle est fondamentale. En même temps, ne pas donner aux Palestiniens les capacités de se nationaliser, c'est-à-dire pas simplement d'avoir un État sur le papier. Je lisais des réactions des Palestiniens de Cisjordanie aujourd'hui à la déclaration d'hier, et je ne pouvais que leur donner raison. Ils se disaient, oui, mais qu'est-ce qui change pour nous? Qu'est-ce qui change pour nous? Qu'est-ce qui change? Eh bien, rien si une politique qui favorise la nationalisation palestinienne, c'est-à-dire la construction d'infrastructures, de systèmes éducatifs, d'institutions, en fait, d'institutions permettant à une nation d'exister dans un État et de vivre souverainement dans son État, eh bien, la discussion restera bloquée. Alors, qu'Israël est une... que la politique israélienne depuis, en réalité, depuis la fin des années 70, c'est-à-dire à partir du moment où le pouvoir est passé à droite.
Entrave l'émergence de ces institutions.
C'est absolument incontestable, et Netanyahou a... qui est le dirigeant le plus longève de l'histoire d'Israël, a une responsabilité immense dans cette situation. Mais c'est une situation qui ne passera que par la reprise d'une politisation de la lecture du conflit.
Je reviens, Bruno Carsanti, à l'Europe. Vous évoquez dans ce livre intitulé « Les paradoxes de l'intégration, l'Europe et les Juifs » que vous faites paraître chez Kalman Levy, une thèse, l'Europe post-Shoah, c'est au fond l'Europe moderne qui s'est construite en faisant de l'intégration des minorités une priorité. Il faut nous expliquer dans le temps qui reste cette idée fondamentale.
Alors, ce que je veux dire, c'est que l'Europe post-45 n'est pas exactement l'Europe post-Shoah. L'Europe post-Shoah se construit progressivement après 45. La conscience de ce qu'a été la Shoah pour l'ensemble des nations européennes se fait progressivement. Et elle se fait douloureusement, parce qu'elle se fait par une autocritique, des critiques adressées aux États, aux différents États qui ont toléré, soit qui ont appuyé, soit qui ont laissé faire le génocide. Alors, le problème de l'Europe, de la Shoah, c'est qu'on ne la lit que comme un traumatisme. Et c'est vrai que c'est un immense traumatisme européen, c'est un immense traumatisme juif d'abord, européen, mais c'est un traumatisme dans lequel, en réalité, on a reconstruit le problème de ce qu'est pour un État de respecter les droits de ses minorités, de protéger ses minorités. Et sur les Juifs, c'est condensé l'idée qu'il y avait une minorité structurellement minoritaire, dont l'existence est minoritaire, et qui posait radicalement le problème de la vulnérabilité des minorités. Voilà. Et donc, de cette grammaire post-Shoah, en réalité, on a tiré beaucoup plus qu'une simple défense des Juifs. On a tiré une auto-éducation des politiques européennes à l'égard des groupes qu'elles contiennent.
D'un mot, pourquoi dites-vous que, alors, par conséquent, cette Europe post-Shoah, la Shoah même en tant que telle, n'est plus une boussole aujourd'hui, n'est plus une boussole politique?
Mais parce que cette position spécifique de la minorité juive en tant qu'elle participe à la reconstruction de l'Europe, à un moment où l'Europe doute d'elle-même, est en crise quant à son modèle politique fondamental, cette position-là devient le point de fixation de détestation ou d'occultation générale. Et donc, je crois qu'on s'éloigne de ce que l'Europe post-Shoah a voulu être comme une Europe des minorités. Voilà. Alors, pour compléter le problème, évidemment, c'est très lié à la façon dont la mémoire post-coloniale est venue prendre une place centrale et de façon tout à fait juste dans la conscience européenne. Et ce que je préconise dans le livre, c'est que ces deux mémoires doivent trouver leur mode d'articulation, la mémoire post-Shoah et la mémoire post-coloniale.
Merci beaucoup Bruno Carsanti de cet échange, de ces discussions. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Les paradoxes de l'intégration, l'Europe et les Juifs. Vous signez cet ouvrage pour Kalman Levy dans la collection Diaspora. Merci d'être venu à Question du Soir et merci à celles et ceux qui ont fait cette émission. Anouk Milliot, Bertie Bourdon, Rodier Ken à la réalisation. C'est Margot Page et Alexandre Dang ce soir à la technique.